Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le 13e épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Ossini. Bonjour Sophia.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu ?
Ben écoute, je pense que ça pourrait aller mieux. Maintenant, voilà, je suis quelqu'un de déterminé, donc je suis déjà en train de réfléchir à la suite et comment faire en sorte que ça aille bien. Donc voilà, pour répondre à ta question.
Ouais, je crois qu'on en est un peu, on en est un peu toutes là. J'avoue. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ?
Alors, je suis Sophia Ossini, je suis autrice, militante des quartiers populaires, militante associative. Je suis notamment cofondatrice de l'association Tous Élus, qui est un dispositif d'accompagnement pour les jeunes de moins de 30 ans, principalement dans des périphéries, des quartiers populaires, des zones rurales, à s'investir en politique et, comme son nom l'indique, à être élue. Voilà.
Super, et du coup, est-ce que tu es élue toi-même ?
Alors, je ne suis pas élue moi-même, j'ai tenté de l'être, malheureusement, le système actuel, les formations politiques ont encore du mal, on va dire, à laisser la place à d'autres personnes, notamment des jeunes et des femmes, à pouvoir porter un certain nombre de sujets. Et là, j'ai pris la décision en décembre dernier de me lancer dans l'aventure des législatives. Donc, je suis candidate. Au départ, j'étais partie toute seule et l'idée, c'est de faire l'union de la gauche, donc dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je suis déjà en train de discuter donc, avec la gauche républicaine socialiste et le Parti communiste et l'idée, c'est d'aller chercher les autres formations pour pouvoir faire tomber cette circonscription acquise aux Républicains depuis 1988.
C'est génial. Alors, hein. Eh bien, écoute, bravo. Super. On va suivre ça de très, très près. Tu as un site internet pour ta campagne ?
Pas encore, parce que comme toute candidature citoyenne, on fait tout un peu avec des bouts de bois. Donc, c'est un peu... Absolument, sur mes réseaux sociaux.
Sur Twitter, Instagram, cool.
Absolument.
Nickel, bravo.
Sur Twitter, Instagram, sophia.ossini. Et il y a toute mon actualité, tous les petits sujets que je porte, les petits débats que j'essaie de lancer aussi dans ma petite communauté, modeste, mais qui commence à prendre en tout cas. Voilà. Donc, c'est important effectivement aussi d'imposer une autre voie et d'imposer une voie surtout... qu'on peut considérer comme invisible. Moi, je suis née en Algérie, j'ai grandi après être arrivée en France sans parler un mot de français dans une cité populaire de Marseille dans laquelle je vis encore. Et donc, je fais partie de ces gens, effectivement, à qui on ne laisse pas assez la parole. Et donc, comme on ne me laisse pas la parole, je la prends.
Eh bien, tu as bien raison. Donc, on t'encourage. On t'encourage de ouf. Trop bien. Et on a aussi le plaisir de recevoir... Fania Noël. Bonjour Fania.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu ?
Ça va. Le printemps commence à pointer le bout de son nez. On espère qu'il tient bon. Donc, de temps en temps, tous les matins, j'essaie de cheer him up en disant « Tiens bon, on est avec toi, lâche rien.
Ouais, » le printemps de la gauche, tu veux dire. Donc j'espère que au moins c'est ça, quand ça va pas trop bien, au moins se réveiller et avoir du soleil et pouvoir sortir marcher et pas avoir des trombes de pluie ou de la neige intempestive, c'est bien. Ouais, parce que t'es où toi, raconte-nous un peu ce que tu fais et d'où tu parles.
Alors, je suis Fania Noël, je suis militante essayiste afroféministe. J'habite à New York parce que je fais mon PhD en sociologie à The New School for Social Research. Je travaille sur les études noires et africana avec une emphase sur les féminismes noirs, les cultural studies et les féminismes matérialistes et les études sur le capitalisme. J'ai cofondé et je suis la directrice d'une publication qui s'appelle La Revue Assiégée, qui est une publication militante politique sur l'intersectionnalité. Et après 5 ans et demi au sein du collectif Moissy, où j'étais en charge de l'idéologie politique et de la formation, l'année dernière, j'ai rejoint l'organisation états-unienne Black Feminist Future comme board of directeurs. Et mon premier livre, Afro-communautaire, Appartenir à nous-mêmes, est paru en 2019 aux éditions Sylabs. Et le second, Maintenant le pouvoir, un horizon poétique afro-féministe, vient de paraître aux éditions Cambourakis. Et l'année dernière, j'ai créé et je suis directrice d'une publication qui s'appelle À l'assaut. C'est une revue d'anthologie féministe haïtienne qui est édité par l'organisation de féministes haïtiennes qui s'appelle Neges Mahon. Voilà, c'est ce que je fais.
Et bon, purée, mais waouh, je suis impressionnée, chapeau quoi. Et bah, merci d'être là, merci d'être là, Fania aussi, c'est super cool.
Merci pour l'invitation.
Et enfin, ouais, avec grand plaisir, merci. Enfin, troisième invitée de ce nouvel épisode, Anne-Sophie Bellamy-Diard. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Écoute, comme Fania, je suis très sensible au beau temps, donc je dois dire qu'en ce jour très ensoleillé, je vais bien. Et puis comme je suis une éternelle optimiste, j'ai envie d'aller bien, même dans la perspective du second tour de la semaine prochaine. Voilà.
Ouais, je pense que c'est le bon mood, hein. Je crois que c'est le bon set of mind, mais est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Eh bien, je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre les choses. Comme les autres intervenantes, je suis engagée dans le monde associatif. Donc, je suis vice-présidente de l'Association des collaborateurs progressistes, donc qui est une association qui regroupe les collaborateurs de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, on a un certain nombre de champs d'action et notamment, il y a un groupe de travail sur l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis donc collaboratrice parlementaire d'un député de la majorité depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Je suis également présidente d'une association dans le domaine du patrimoine qui s'appelle Patrimoine 2.0, qui vise à défendre un peu une vision décloisonnée du patrimoine et à favoriser les initiatives dans le monde du patrimoine. J'y reviendrai peut-être en fin de podcast. Et puis, je suis également chargée d'enseignement à l'université Paris-Saclay, donc en droit, puisque je suis doctorante en droit depuis un nombre beaucoup trop important d'années maintenant. Et je travaille, donc j'enseigne la fiscalité et l'histoire du droit, et je travaille également sur une thèse qui porte sur les structures juridiques dans les monuments historiques privés. Voilà.
Waouh. Eh bien, dis donc, vous êtes vraiment toutes les trois archi occupées. Je ne sais pas trop comment vous faites pour gérer tout ça, mais en tout cas, waouh, génial. Merci d'être là. Joli line-up, hein, comme d'hab, sur Popol. Et joli line-up aussi pour parler du sujet qui va nous prendre tout l'épisode aujourd'hui. On a décidé de faire avec mes invités une spéciale premier tour, enfin, entre deux tours, si je puis dire. D'habitude, vous savez, sur Popol, on traite de deux sujets en particulier. Là, cette fois-ci, le choix a été fait de consacrer un épisode entier à ce premier tour de l'élection présidentielle et à l'entre-deux tours. Donc, comme vous le savez, je n'avais pas besoin de vraiment trop contextualiser cette introduction. On est aujourd'hui à la veille d'un second tour de l'élection présidentielle qui s'annonce assez compliqué, puisque contrairement à 2017, Emmanuel Macron était largement donné gagnant dans les sondages, on se rend compte que l'extrême droite continue à grappiller des voix, continue à être de plus en plus, comment dire, de plus en plus soutenue par un certain nombre de Françaises et de Français, ce qui est particulièrement inquiétant dans le sens où le vote d'extrême droite a augmenté de 10 points par rapport au premier tour de 2017.
Donc, je trouvais important et fondamental qu'on prenne le temps de discuter de cette situation politique et aussi d'aborder tous les autres enjeux autour de cette élection, mais aussi autour des législatives à venir qui se tiendront, donc, je le rappelle, en juin, mi-juin, pour être plus précise, le 12 et le 19 juin, et autour des élections législatives. Donc, sans plus attendre, allons-y, hein, jetons-nous un peu à l'eau. J'avoue que ce n'est pas avec beaucoup d'entrain que je me lance sur comment dire, l'étude de la situation politique actuelle. C'est dur, et je pense que c'est dur pour vous aussi, et j'aurais bien aimé en discuter avec vous, avoir vos sentiments, avoir vos analyses aussi sur la situation politique dans laquelle nous nous trouvons, qui, à mon sens, est particulièrement inquiétante et catastrophique. On va commencer peut-être avec toi, Fania. Qu'est-ce que tu penses de ce résultat? Qu'est-ce que ça te donne envie de dire?
Malheureusement, c'était décevant, mais pas surprenant. C'est comme dans Malcolm in the Middle, Malcolm, il y a un mème de Dewey qui dit I was expecting nothing, but I'm still disappointed. Ben, c'est exactement ça. Donc, on s'attendait à rien, mais c'est quand même décevant. Moi, personnellement, j'ai mis mes convictions de côté. J'ai voté stratégique pour Jean-Luc Mélenchon. J'y croyais pour qu'il aille jusqu'au deuxième tour. Ça ne s'est pas fait. Donc, je suis déçue. Effectivement, et assez inquiète du. En fait, du manque de choix politique qui nous est donné parce que voilà, le choix c'est entre un parti politique fondé par avec des anciens collaborateurs de SS, des gens qui ont fait des crimes de guerre en Algérie. Il faut se souvenir, c'est quoi le Front National? Je sais que les gens aiment dire que c'est un parti qui a changé. Je pense que le parti n'a pas changé vu qu'on regarde le programme. Ils sont extrêmement clairs et c'est un parti qui, contrairement à d'autres partis, je pense notamment au Parti Socialiste, a tenu sa ligne et n'a pas dévié de sa ligne, a peut-être changé son mode de communication avec leur nouvelle candidate Marine Le Pen, mais ça n'a pas changé le fond et leur programme est extrêmement clair sur c'est quoi leur vision de la France et leur vision de la politique et comment gérer la politique et comment gérer les institutions. Donc c'est assez effrayant, mais d'un autre côté, la perspective néolibérale et aussi avec un parti politique qui, selon moi et selon mes intérêts objectifs de classe, même si j'habite plus en France, mais toute ma famille y habite, est extrêmement dangereux et contre les classes populaires et aussi avec des discours qui ont favorisé la présence de l'extrême droite, des idées d'extrême droite sur la question notamment des musulmans en France. Et d'autres minorités, quand le woke, la cancel culture, les intersectionnalistes et autres mots valises sont devenus un danger national alors que des étudiants faisaient la queue pour se nourrir. Donc, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et mais on a essayé, je parle des gens de gauche, de faire un autre résultat, ça n'a pas marché. Et puis maintenant, la semaine prochaine, je vais faire comme beaucoup de mes amis, de mes camarades, je vais me boucher le nez. Enfin, pas moi, parce que je ne vais pas voter en direct, mais la personne qui va voter à ma place. Et je vais voter Macron. Donc voilà, l'arme à l'œil, mais je vais faire ça, pas pour lui, effectivement, mais parce que je sais très bien, après avoir vécu aux États-Unis sous Trump, qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite au pouvoir et qu'est-ce que ça veut dire détricoter les institutions. Et je pense que tout le monde doit avoir en tête que les États-Unis sont passés à 2 minutes d'un coup d'État et quand l'extrême droite prend le pouvoir, il ne rend pas le pouvoir. Et je pense que il faut avoir de l'humilité de pas penser que la France est différente des pays d'Amérique latine, des pays d'autres pays d'Europe ou des pays d'Asie et d'Afrique, que parce qu'il y aura Le Pen, il y aura la révolution et on va faire la commune parce que ce sera horrible et il y aura un mouvement populaire. Non, ce qui va se passer, ça va réduire l'engagement associatif, les gens ils vont être dans la peur et ça va prendre, parce que ça tombe toujours, mais ça prend des années et parfois ça prend une génération à une génération et demie à défasciser un pays. Et ils s'assurent que les institutions ne soient pas possibles pour changer ça. Donc, je pense que ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens, et même des gens de gauche, qui pensent qu'on devrait laisser la situation arriver, que Le Pen soit élu pour tout faire péter. Et je pense que c'est un fantasme du grand soir qui n'est pas prêt d'arriver, enfin, dans les conditions actuelles.
Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, d'autant que, en fait, ces idées fascisante et fasciste, hein, mettons des mots, gagne du terrain parce que c'est aussi un travail de long terme, un travail de très long terme qui est réalisé par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen et puis de son père auparavant. Donc effectivement, je pense que celles et ceux qui disent que voilà, faut faire ce que la démocratie doit donc parfois passer par des périodes horribles pour qu'on se rende compte à quel point c'est important de revenir à une période plus respectueuse des droits fondamentaux, etc. Moi, pareil, je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse et je pense que ce serait la pire des choses qui puisse nous arriver, parce que d'autant plus, au-delà de ça, ça donnerait une forme de légitimité institutionnelle à ces idées d'extrême droite et je pense que ce serait encore plus dangereux pour les personnes qui n'adhèrent pas du tout à ce type d'idéologie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, moi, il y avait une autre question que j'aurais bien aimé aborder avec vous. Bon, on est OK à la veille du second tour. On n'a absolument pas idée de ce qui va se passer. Mais admettons qu'un certain nombre de personnes, comme toi, Fania, et moi, je vais faire exactement la même chose, votent pour Emmanuel Macron un peu par défaut. Et pour être très honnête avec vous, moi, c'était déjà le cas en 2017. Hein, je n'étais pas particulièrement emballée par le personnage ni par le programme, qui était en plus très flou. Mais les intentions néolibérales étaient assez claires. Et c'est vrai que ce n'est pas dans ce type de société que moi, je me reconnais. Mais bon, je me disais, OK, je fais rempart. C'est le cordon sanitaire qu'on ressort. Le Front républicain, et voilà, on y va. J'ai l'impression que beaucoup de personnes avaient fait ça en 2017, mais qu'il y avait quand même un certain engouement autour de la candidature d'Emmanuel Macron, et qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui, et notamment des personnes de gauche, hein, plutôt SOSDEM, avaient décidé de voter pour lui avec une certaine conviction, et que du coup, bon, bah, il y avait un résultat qui était assez clair, et puis quand même un certain soutien de son gouvernement, de ses idées et de sa candidature et de sa mandature. Là, en l'occurrence, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de personnes n'adhèrent plus forcément à ses idées et que le vote contre l'extrême droite sera peut-être encore plus important que ce que ça l'a été en 2017 et que ce sera davantage un vote contre l'extrême droite que ce sera un vote pour Emmanuel Macron, et je ne suis pas la seule à le dire. Est-ce que ça peut avoir un impact sur sa capacité à gouverner pendant 5 ans, Anne-Sophie?
Écoute, oui, il me semble qu'il y a un vrai enjeu autour de l'adhésion, notamment le fait d'adhérer au projet et donc d'être extrêmement clair dans les... En fait, de porter uniquement le programme sur des intentions, mais sur des mesures concrètes pour parler aux gens. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement important. J'ai observé, comme j'imagine vous toutes, les différentes professions de foi, et j'ai quand même constaté qu'il y avait une lacune, qui était celle que Marine Le Pen, elle a fondé une grande partie de son projet, alors évidemment je n'y adhère absolument pas, sur des mesures très concrètes, très transparentes, et qui parlent clairement aux gens. Et les autres candidats, Emmanuel Macron, mais également Jean-Luc Mélenchon, ont aussi fondé leur programme et leur communication sur des intentions, sur des directions qui ne sont pas forcément très compréhensibles pour les gens au moment où ils vont se décider pour aller voter. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire de la part de toutes les personnes, tous les candidats du Front républicain, de gauche comme de droite d'ailleurs, ou au centre pour Emmanuel Macron, de s'engager pour avoir vraiment une parole qui soit audible et qui soit concrète auprès des électeurs pour aller convaincre vraiment chaque électeur d'aller voter contre Marine Le Pen. Alors, je comprends que ce soit difficile pour certains électeurs de se dire je vais donner ma voix à Emmanuel Macron, mais en fait, la difficulté, c'est que la comptabilisation des voix aujourd'hui ne permet pas de vraiment prendre en compte les votes blancs. Et honnêtement, entre nous, alors moi, je soutiens bien sûr la candidature d'Emmanuel Macron, mais en fait, voter blanc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est quelque part se dire je ne peux pas choisir entre ces deux personnes. Il me semble que le choix est quand même évident. On a d'un côté un républicain qui protégerait les institutions et les défendra, et de l'autre côté, quelqu'un qui est profondément anti-républicaine. Et même si je suis une très grande féministe, ça m'écorcherait, vraiment, ça m'écorcherait de voir que la première présidente de la République en France, femme, donc, et Marine Le Pen. Ce serait vraiment un drame, je pense, pour nous toutes et nous tous. Donc effectivement, il y a vraiment un enjeu de convaincre. Et je suis d'accord, le fait de l'adhésion à un programme, l'adhésion à une idée est fondamentale. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une élection qui est extrêmement personnifiée, et que la personne d'Emmanuel Macron, en dépit de toutes ses qualités, cristallise beaucoup de tensions et beaucoup de haine. Et ça, je l'ai observé tout au long de ce mandat, et à titre personnel, en tant que collaboratrice, pour avoir reçu un certain nombre de menaces de mort, je l'ai également observé. Donc, il y a une vraie haine, en fait, à l'égard des politiques en France. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'il faut réussir vraiment à rétablir ce dialogue-là. Je ne dis pas qu'il y a de solution miracle à ça. Et je pense que le vote, le résultat du premier tour montre très clairement qu'il y a un enjeu social très fort, qu'il y a un besoin social qui est très très fort. Et je pense que Emmanuel Macron doit profiter de ce temps qui reste avant le second tour pour vraiment s'engager sur le volet social et s'engager pour lutter contre les inégalités dans ce pays. Et ça passe, à mon sens, par des mesures fortes sur le plan social pour protéger les personnes qui sont les moins favorisées, mais également des mesures fortes même sur le plan fiscal. Alors, pour lutter contre les dérives du système fiscal aujourd'hui qui créent de réelles inégalités entre les citoyens. Et à mon sens, on peut, avec des mesures fortes, corriger en fait le tir, y compris au niveau européen. C'est l'occasion. Emmanuel Macron est président à la présidente. C'est l'heure de la présidence française de l'Union européenne. C'est l'occasion de s'engager. J'espère que je n'ai pas été trop longue.
Non, pas du tout. Et je trouvais ton intervention super intéressante, notamment pour quelqu'un qui soutient la majorité. Je trouve que tu prends énormément de recul. Je trouve ça assez génial, je dois t'avouer. Typiquement, tu parlais de la nécessité de redresser la barre un peu à gauche hein, quand tu parles de mesures sociales fortes, de lutte contre l'évasion fiscale, etc., d'avoir une justice fiscale plus... d'avoir une fiscalité plus juste. Est-ce que tu penses qu'à ce stade, le président candidat Emmanuel Macron serait en capacité d'intégrer un certain nombre de dispositions, par exemple, du programme de Jean-Luc Mélenchon? Parce que j'ai senti qu'il y avait une certaine tentation hein, d'aller draguer les électeurs de gauche, puisqu'en fait, ses réserves de voix sont là. C'est évident, les réserves de voix d'Emmanuel Macron pour le second tour sont plutôt à gauche qu'à droite, de toute évidence. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des choses très fortes, des annonces à court terme, c'est-à-dire cette semaine, parce qu'il ne reste plus que quelques jours avant ce second tour, de la part du président pour venir vraiment séduire un électorat de gauche?
Écoute, oui, je pense que... Alors, au-delà de séduire l'électorat, je pense qu'il faut qu'il montre aussi ses intentions sur le plan social. Il n'a pas forcément toujours mis l'accent là-dessus. En plus, il y a une campagne qui a été un peu chaotique, on ne va pas se mentir là-dessus. Donc, je pense qu'il n'a pas forcément eu le temps de mettre l'accent véritablement sur toutes ses idées. Au meeting qui a eu lieu à Paris, il a quand même beaucoup parlé du volet social. Donc, je pense qu'il va continuer dans cette trajectoire cette semaine. Pour moi, il y a un marqueur qui est assez... illustrant sur ce plan-là, c'est que il y a un enjeu qui était la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'est un sujet que moi, je défends depuis longtemps. Le député pour lequel je travaille a été voté contre la majorité, en l'occurrence, pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Et cette semaine, Emmanuel Macron a pris l'engagement de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Alors, je regrette que ça n'ait pas été fait plus tôt, mais ça montre quand même une intention et une écoute. Il aurait pu camper sur ses positions et il a décidé de réviser sa position sur ce point-là. Et donc, j'imagine aussi qu'il est capable d'être dans le dialogue et de réviser ses positions sur d'autres sujets. Et ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, clairement, qui n'est pas quelqu'un qui est dans le dialogue, qui est quelqu'un qui a des idées fascisantes et qui les appliquera jusqu'au bout et qui a comme projet quand même de réviser notre constitution pour inscrire la discrimination légale dans notre constitution. C'est quand même délirant. Et donc voilà, donc moi je pense qu'il est vraiment ouvert au dialogue et qu'il est capable de prendre des mesures en faveur d'une plus grande égalité, et l'allocation adulte handicapé est un exemple.
Ouais, et ben écoute, espérons, mais effectivement je pense qu'il a tout intérêt à jouer la carte, mais de manière sincère, hein. Tu vois, moi en tant qu'électrice de gauche, j'ai pas envie qu'on me la fasse à l'envers, donc s'il y a des dispositions qui sont intégrées à son programme cette semaine, qui soient des dispositions comme étant marquées, disons, à gauche, j'espère vraiment que c'est très sincère et que ce n'est pas uniquement un coup politique. Sophia, toi, tu l'analyses comment, cet entre-deux-tours?
Cet entre-deux-tours, tu dis?
Ouais.
Écoute, je l'analyse comme étant un moment, en fait, de un peu comme quand on sort d'une énorme gueule de bois, donc ou qu'on a été un peu sonné, donc tout le monde sort effectivement un peu de la sidération, et la question est quelle réaction avoir, quelle est la réaction la plus sage, la plus juste, la plus dans le sens de l'histoire face à ce nouveau duel avec l'extrême droite. Moi, j'étais de ceux qui avaient voté blanc en 2017 au second tour sans franchement aucun scrupule, quoi. Je voyais très bien, effectivement, moi, l'intention ultra-libérale, je voyais bien poindre le virage à droite et la paupérisation des classes déjà assez frappées, on va dire, par la pauvreté, hein, et les 5 ans d'Hollande n'avaient pas suffi à redresser convenablement après ce qu'on avait connu sous l'ère Sarkozy, notamment sur la question des quartiers populaires, de la rénovation urbaine, de réinvestir massivement pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, de discrimination, pardon, et de droits des femmes. Et pour moi, donc 2017, je pensais pas que le vote extrême à droite, l'extrême droite, soit aussi fort. Et en fait, on voit bien qu'ils ont gagné des voix, en fait, quoi, notamment en 5 ans, et que je regrette effectivement, et je comprends, sans le défendre, hein, néanmoins, parce que j'ai décidé aussi d'être de ceux qui, en me bouchant le nez, en utilisant du gel hydroalcoolique après avoir voté Macron, quoi, au second tour cette fois-ci, parce que le vote extrême droite, moi qui suis à Marseille, c'est un gamin de 17 ans qui se prend une balle dans le dos par un militant Front National qui colle des affiches. C'est des Algériens jetés à la Seine. C'est pas anecdotique, en fait. Et pour moi, ça, on peut pas jouer, en fait, avec le feu. Et autant j'essaie de chercher à comprendre qu'est-ce qui, notamment dans le vote insoumis, peut faire dire, en fait, on en a tellement marre de Macron qu'on va voter Le Pen, de dire que c'est véritablement dangereux, en fait, et que bien évidemment qu'il y a eu des violences policières comme on n'en avait plus connu depuis des années pendant la Macronie, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, pendant toutes les manifestations du 1er mai, qui est quand même la fête des travailleuses et des travailleurs. Vraiment, il n'y a pas pire manière, effectivement, d'humilier les forces vives, les forces ouvrières de notre pays en ayant ce genre de comportement. Et puis, bien évidemment, là, pendant cette campagne, tu le disais un petit peu pendant ton introduction, Léa, dans le contexte. Il n'y a pas eu de véritable campagne sur du fond. Je voyais un thread très drôle la dernière fois sur Twitter d'un médecin qui comparait les candidats à des parties du corps humain et qui concluait que les deux grands absents, les deux candidats absents de cette présidentielle, c'était le cœur et le cerveau. Et en fait, on nous a copieusement servi les pires atrocités racistes, sexistes, xénophobes, antisémites pendant ce qui devait ressembler à une campagne présidentielle et qui n'en a pas été une. Ça a été du show télévisé, effectivement, comme on peut voir aux États-Unis, juste sur du sensationnalisme, des petites phrases comme ça. Je voyais certains médias parfois titrer les quartiers populaires, les grands absents, tout timidement, etc. Alors qu'en fait, je veux utiliser ce temps pour rappeler les vrais sujets, rappeler que 200 000 personnes en France vivent dans des logements insalubres, indignes ou bien tout simplement à la rue, que tous les mois, il y a des dizaines d'accouchements de femmes qui mettent au monde des bébés dans la rue, qu'il y a, on a 3 ans pour réagir face au changement climatique et qu'on en est encore à discuter de est-ce que le Front National est d'extrême droite ou pas et est-ce que c'est des fachos ou pas. C'est 3 ans-là aussi pour réagir face au climat. En réalité, ce sont les plus pauvres, encore une fois, qui vont en pâtir les premiers parce que 2 degrés de plus, là, quand il fait déjà 50 degrés dans certains appartements parce qu'ils sont mal isolés, en fait, le réchauffement climatique, certains le vivent déjà, en fait. Et avec les problèmes respiratoires aussi, surtout dans les quartiers populaires, il y a une personne sur 4 qui a ce genre de problématiques de santé, l'accès aux soins, encore une fois. Et en fait, c'est tout un système que je pourrais mettre une heure, en réalité, à décrire autour de ces questions de pauvreté. Et puis les deux sous-jacents pour moi sont effectivement d'investir massivement ce fameux milliard d'euros réclamé notamment par les associations féministes pour pas seulement intervenir de manière urgente sur les questions de violence sexiste, sexuelle, de discrimination, etc., mais bien d'intervenir au plus tôt dans les maternités pour faire cesser les violences obstétricales, dans les crèches pour cesser les discriminations liées au sexe. Et puis sur la question, encore une fois, de l'écologie, oui, il est urgent que les gens mangent mieux ou mangent tout court, en fait. On l'a encore vu pendant la crise sanitaire et le confinement, les files d'étudiants qui allaient réclamer de la nourriture. Je ne pensais pas voir, surtout moi, en tant que primo-arrivante, en tant que rescapée de la décennie noire en Algérie, voir en France des enfants, des étudiants aller réclamer à manger. En fait, on n'en est même plus sur le bien manger, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, etc. Et pour moi, ça dit quelque chose, effectivement, d'une véritable urgence et de sortir effectivement de cette sidération, de dire, il n'y a pas de débat sur le Front National, c'est des fachos, ils sont racistes, ils sont sexistes, ils sont xénophobes, et je ne comprends pas que ça puisse être encore un débat ou un sujet d'ambiguïté, notamment sur des gens qui sont censés se battre pour les conquis sociaux et d'aller en cherchait d'autres, en fait, et de se saisir pleinement de la démocratie pour que qui que l'on soit élu local, que l'on soit dans un tout petit village dans la Meuse, qu'on soit dans le 93 ou dans les quartiers nord de Marseille, on puisse chacun se remettre à toutes les étapes de la construction d'une politique publique. Et ça, c'est ce qui a fait défaut très clairement pendant les 5 ans qu'on vient de vivre avec Emmanuel Macron,
ouais.
Et qui ont participé de cette défiance vis-à-vis de nos institutions, de décrédibiliser.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tracasser à la fois les partis politiques, mais aussi les corps intermédiaires. Et on l'a vu, encore une fois, pendant le grand débat national, qui était simplement une espèce de grande thérapie nationale complètement raté parce que bah, une thérapie, ça nécessite d'avoir des gens empathiques en face qui puissent entendre ce qu'on est en train de raconter. Le rapport Borloo également, qui préconisait des choses formidables. Il s'agissait de 50 milliards, alors que l'évasion fiscale, c'est 100 milliards. On aurait pu, avec ces 100 milliards, voilà, investir pour ce milliard d'euros qui n'est pas vraiment... Enfin, il y a des gens qui arrivent à le faire en Espagne, dans d'autres pays, et on voit bien les progrès de toute la société que ça produit quand on travaille sur ces sujets-là. Et il y a un manque à gagner, en fait, à ne pas agir sur ces discriminations, tout comme sur... voilà, moi, je trouve ça inquiétant de voir Marine Le Pen, là, qui dit, ben moi, tout de suite, avec la priorité nationale, c'est 700 000 expulsions de personnes considérées comme pas assez blanches, pas assez françaises dans les HLM. Et je trouve ça dramatique, alors même qu'on a déjà, rien qu'à Paris, 3 4 000 sans-abri dehors, rien que dans Paris, en fait. Je comprends pas quand on voit aussi certains secteurs en tension sur cette question de préférence nationale. Il y a des villages en fait qui manquent de médecins, avec des médecins qui font des rondes, qui ont des horaires pas possibles pour pouvoir desservir plusieurs petites communes et villages à la fois. Et donc on a besoin notamment de cette.
Bien sûr.
Voilà. De... Bref.
Donc constat très juste. Je pense que c'est important. Tu as dit les termes. Hein. tu as clairement dit les termes. Il faut se méfier, effectivement. Hein, et il faut impérativement rappeler et marteler que la menace de ce second tour, c'est effectivement l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, c'est la fin de nos libertés publiques, c'est. C'est vraiment, enfin, je ne comprends même pas comment on peut imaginer une société telle que celle qu'elle propose, en fait, parce qu'effectivement, on parlait des mesures, des programmes politiques, etc. Mais bon, quand même, lorsqu'on regarde les programmes des uns et des autres, même si pour certains, c'est juste des intentions, pour d'autres, c'est des mesures plus précises, il n'en demeure pas moins qu'il est très, très clair que Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen ou même Jean-Luc Mélenchon, qui est le troisième homme de cette élection, proposait des sociétés fondamentalement différentes. Donc, important effectivement d'insister là-dessus, de remettre les choses dans leur contexte.
Je veux dire effectivement aux gens que c'est quand même plus facile, toute proportion gardée, d'être dans l'opposition que dans la résistance. Et c'est fondamental en fait de comprendre ça à la veille de ce 24 avril.
Oui, c'est clair. Fania, tu voulais réagir à ce que Sophia était en train de dire ?
Oui, en fait, je pense que, enfin, pour passer sur cette question de possible troisième tour et des législatives, moi, je voudrais dire que sur les élections, il y a quelque chose qui dit comme on fait son lit, comme on se couche. Hein, on ne peut pas passer 5 ans avec faire des appels du pied à des groupuscules comme le Printemps républicain ou avoir des élus de la majorité qui disent... Oui, moi, vous savez, ce qui me fait plus peur que l'extrême droite, c'est les intersectionnalistes faire des conférences de recherche sur le séparatisme, proposer des lois sur ça et s'étonner, comme par magie, que 5 ans plus tard, bah, une frange de la population est... va vers la droite, va plus à l'extrême droite. Et quand on regarde les chiffres, on voit que la France est un pays extrêmement réactionnaire. C'est-à-dire que on peut faire toute l'addition qu'on veut. J'étais vraiment très contente de voir les chiffres de Jean-Luc Mélenchon, surtout dans les quartiers les plus populaires. On voit que le vote, il est segmenté en deux. Il y a la bourgeoisie pour le néolibéralisme, qui est plus pour LRM. Et ensuite, il y a les franges de la bourgeoisie, surtout dans le 16e arrondissement, pour l'ethno-nationalisme. Et ensuite, il y a le vote populaire pour l'ethno-nationalisme, avec une défense de, ben, en fait, vous inquiétez pas, on n'aime pas les pauvres, mais on va protéger certains pauvres contre les autres. Donc, on ne peut pas passer 5 ans, et ce n'est pas que les 5 ans de Emmanuel Macron, on va dire les 15 dernières années, surtout les 5 ans de François Hollande, à transformer, à faire en sorte que la gauche n'ait plus de logiciel idéologique, qu'il n'y a ni de gauche ni de droite, ni de gauche ni de droite, c'est-à-dire qu'on est à droite, et s'étonner que des gens vont vers des thèses ethno-nationales et vers vers des partis qui portent ces idéologies, des partis qui ont été constants. Donc, la question pour des personnes qui veulent sortir de ça, enfin, moi, qui je crois de manière extrêmement relative à la démocratie élective, je pense qu'on ne peut pas juste dire que la panacée de l'engagement politique, c'est d'aller voter tous les 5 à 3 ans, etc. Je pense que oui, il faut faire, que c'est bien de faire ça, mais bon, c'est pas suffisant, mais c'est bien de faire autre chose. La question, c'est comment c'est possible de transformer profondément cet endroit où beaucoup de gens vivent et des gens qui ne sont pas français, ou quelque part où on peut partager, où les gens peuvent partager un commun, une idée de justice sociale, d'égalité qui ne soit ni basée sur l'exploitation de certaines catégories, sur la marginalisation, sur le retrait de l'humanité, sur les constantes polémiques, ni basée non plus, parce qu'on est dans un monde globalisé, sur l'exploitation systémique et systématique de continents entiers, notamment en Afrique et en Asie. Donc, comment on fait, vu qu'on est dans la période écologique, pour partager le territoire qu'on appelle la Terre et l'horizon de liberté, de justice, des ressources et du bien-être avec les autres êtres humains, pas que ceux qui sont de nationalité française et pas que ceux qui habitent en France, mais aussi avec les autres vivants qui ne sont pas que humains, avec qui on partage cet espace. Et le fait de dire ça, le fait de penser ça, ne peut pas être pensé que dans les partis politiques et ne doit pas être laissé que dans les partis politiques qui ont des intérêts objectifs et qui ont des intérêts qui vont parfois à l'encontre des intérêts des individus et à l'encontre des intérêts des groupes les plus marginalisés. Donc moi, la seule chose que j'ai peur, enfin, je vais aller voter parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui ne sont pas de nationalité française, il y a aussi des membres de ma famille qui ne sont pas chrétiens, qui sont de l'autre et qui ont subi ce que le ministre de l'Intérieur disait, qui trouvait Marine Le Pen molle face à l'islam, par exemple, ou sur les quartiers populaires, où j'ai des frères qui habitent dans des quartiers populaires et qui subissent la police, et des sœurs aussi. Donc voilà, donc je ne veux pas que mon vote soit comptabilisé et que dans 7 mois, j'ai Marlène Schiappa qui dit « Oh, les Français ont voté pour Macron et pour ce programme. » Je ne vote pas pour le programme de Macron, je ne vote pas pour la Macronie ni pour ce programme, je vote juste parce que je pense que... je vote pour choisir l'ennemi, c'est tout. Je vote parce que je pense que ce sera plus facile de s'inquiéter des nouvelles dingueries du néolibéralisme, enfin plus facile, relativement plus facile, d'avoir à trouver des hébergements d'urgence pour les centaines de milliers de personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui habitent dans les HLM ou des personnes qui font partie de notre famille, qui habitent en France depuis 30 ans, mais qui n'ont jamais été naturalisées. Donc voilà, donc on vote pour ça. Et moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que je sais que s'il est élu, dans 6 mois, on va se taper sur RTL et France Inter le rappel de tant de millions de Français ont voté pour Macron et son programme, alors que c'est faux. Et aussi, en tant qu'afroféministe, en tant que féministe, je me souviens que on était dans la rue à la marche il y a 2 ans pour le 8 mars et que mes camarades se sont bien fait tabasser. Donc ça, je n'oublierai pas. Et je pense que ce qu'on appelle le troisième tour va être important, même si lorsqu'on analyse les voix et beaucoup de collègues politistes ont fait ça, il n'y a quasiment aucune chance les chances de cohabitation sont très réduites, mais on peut avoir des forces de déstabilisation subversive qui font entrer des débats dans l'Assemblée nationale qu'on n'aura pas. Donc,
bien sûr, on peut avoir des candidatures tu vois, qui portent effectivement de nouveaux... qui portent les nouveaux combats sociaux, en fait, hein, et les combats qui sont dans la rue et qui viennent, je pense à des figures comme, Sandrine Rousseau, typiquement, qui se présente. Alors, Alice Coffin, au final, ne se présente pas, mais il y a plein, Nadera Belletrèche, enfin, il y a plein de femmes, justement, qui portent aussi des combats intersectionnels, et je trouve que ce serait vraiment super intéressant de les avoir à l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi Sophia Oussin, par exemple, qui est ici avec nous, donc ce serait vraiment chouette. Je voulais Surligner, enfin insister sur ce que tu as dit, qui était vraiment super intéressant. Déjà, ben, le vote de Macron du second tour, là, pour un bon nombre de personnes, il ne faut pas que ce soit analysé comme étant un blanc-seing à sa politique ultralibérale qu'on risque d'avoir pendant les 5 années à venir. Et aussi, tu parlais du troisième tour de ces législatives, et j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de ça. Anne-Sophie, toi, tu vois, moi, quand j'ai vu les résultats de dimanche soir, je me suis fait des nœuds au cerveau, genre toute la nuit, pour me dire, OK, si Marine Le Pen remporte cette élection présidentielle, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Quels sont les remparts derrière? Comment on fait en sorte que notre démocratie ne soit pas hold-upée, hackée par l'extrême droite? Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis dit, mais franchement, est-ce qu'elle peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale? T'en penses quoi, toi, Anne-Sophie?
Alors, j'espère qu'elle n'aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale. J'aime beaucoup trop cette maison pour l'avoir basculée. L'Assemblée nationale a été occupée par les fascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'espère que ça ne surviendra plus jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est la maison du peuple, en fait, l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc j'espère que le peuple ne se sentira pas, ne votera pas pour ces personnes-là qui ne le représentent pas, en fait. Bien au contraire. Et donc, très clairement, y a un sujet. Aujourd'hui, l'extrême droite n'a pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, dans la procédure de l'Assemblée nationale, le fait d'avoir un groupe permet de porter un certain nombre de textes. Ça permet de pouvoir avoir un temps de parole plus important. Donc il faut avoir au moins 15 députés à l'Assemblée nationale, donc élus, pour pouvoir avoir un groupe parlementaire. Parfois, je me dis, alors je suis assez partagée sur le sujet, je me dis que s'ils avaient un groupe parlementaire, peut-être que tout le monde se rendrait compte à quel point ils sont nuls. Enfin, on parle quand même de quelqu'un qui ne sait pas que Bourguiba est tunisien. Donc, quand on voit son niveau de culture générale, on se dit que si elle prenait la parole plus souvent à la tribune, tout le monde se rendrait compte à quel point elle est nulle, et ça éviterait à des gens de voter pour elle en pensant que c'est la meilleure solution. Néanmoins, je pense qu'il serait... difficile pour elle d'obtenir une majorité, parce que je crois en mes concitoyens, et je pense qu'ils sont partisans de la démocratie et partisans de l'espoir. Je pense qu'il est sain dans un pays comme le nôtre qu'il y ait plusieurs forces au sein de l'Assemblée nationale, notamment pour incarner les différentes mouvances d'opinion des Français. Et je serais très favorable à ce qu'on renforce les droits des parlementaires, à ce qu'on renforce le pouvoir législatif dans le prochain quinquennat, pour notamment permettre à ce pouvoir législatif d'incarner vraiment des idées, de porter des idées. Et il faut savoir qu'il y a des députés au sein de la majorité qui ont porté des idées très fortes pendant ce quinquennat. On a eu des progrès, notamment en société, je pense au sujet de l'avortement, voilà, l'augmentation du délai pour pouvoir avorter, qui était à la base, qui a été compliqué à obtenir et que les députés de la majorité ont porté. Il y a eu vraiment beaucoup de sujets, de sujets sociaux. Je pense à la loi bioéthique, à l'ouverture de la PMA. Je veux dire, je ne vois pas Marine Le Pen faire ça, même si elle prétend qu'elle est pour. Donc voilà, il y a quand même des sujets qui ont été portés par la majorité et par les députés individuellement. Et j'espère que ce prochain quinquennat permettra vraiment au pouvoir législatif d'occuper la place qui lui revient, et aux différentes mouvances d'incarner leurs idées. Et j'espère que tout le monde se rendrait compte que l'extrême droite est complètement aux fraises, quoi.
Est-ce que tu imagines un scénario dans lequel Emmanuel Macron n'a pas de majorité ?
Écoute, c'est toujours possible. C'est toujours possible, et dans ce cas-là, il faudra qu'il cohabite, comme on dit, et ce sera la voie du compromis permanent, en espérant que ce ne sera pas. T'imagines s'il y avait d'un côté une majorité entre guillemets d'extrême droite à l'Assemblée nationale, et de l'autre côté Emmanuel Macron, donc président de la République. Sincèrement, moi, je passerai mes 5 prochaines années à écrire des discours pour que mon député hurle à la tribune s'il est réélu, parce que vraiment, ce serait dramatique. Après, je pense que même au sein de la majorité, il y a différentes tendances, et qu'il y a quand même un certain nombre de groupes aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, et que du coup, tu peux faire quand même coexister le compromis. Et tu as beaucoup plus, enfin, tu as beaucoup de compromis qui coexistent, et je pense que le compromis et le consensus est quand même intéressant en démocratie.
Ouais, c'est clair. Moi, je me souviens même de propositions de loi, donc à l'initiative des députés, des parlementaires, ou encore de propositions de résolution qui ont été co-signées par des députés France Insoumise, PS et LREM. Je pense aussi à tout le débat sur la fin de vie où il y avait quand même un consensus remarquable hein, au sein de certaines forces politiques à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale a presque tenu tête au gouvernement sur cette question, mais encore sur l'IVG aussi, sur le délai, l'allongement du délai d'IVG. Moi, j'ai trouvé que vers la fin, l'Assemblée nationale commençait à jouer son véritable rôle démocratique et de contre-pouvoir d'exécutif. Est-ce que ce sera plutôt ce visage-là de l'Assemblée nationale qu'on verra, d'après toi, en 2022, à partir de 2022 ?
Je pense qu'il y a une forme d'émancipation qui se fait naturellement lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale. C'est toujours très impressionnant et on a tendance à avoir peur de dévier, entre guillemets, de la position du groupe. Et là, les députés qui ont été confrontés à l'exercice, qui ont leurs propres idées, leurs propres convictions personnelles, vraiment se sont affranchis. Il y a une blague, un jour, Christophe Castaner a dit en réunion de groupe, si je devais exclure du groupe tous les députés qui ont voté contre l'avis, enfin contre la position du groupe, il ne resterait plus que Gilles Legendre, qui a été président de groupe pendant l'essentiel du quinquennat, et moi dans le groupe LREM à l'Assemblée nationale. Ce qui veut quand même dire quelque chose, c'est qu'il y a quand même une certaine autonomie des députés qui sont totalement... Alors, il y a la fin de vie. Moi, je pense à quelque chose qui a été pour moi un triomphe de haute lutte, qui a été le fait de voter dans la loi la rémunération, la mensualisation de la rémunération des vacataires dans les universités. Alors, j'en fais partie, des vacataires dans les universités, mais ce n'était pas pour moi que j'ai fait voter ça, c'est pour tous ceux qui sont doctorants et qui vivent sous le seuil de pauvreté et à qui on dit, lorsqu'ils réclament le paiement de leurs heures, « Ah bah, va falloir attendre pour aller au resto alors qu'ils sont vraiment en grande difficulté ». Donc, j'ai pensé aux 150 000 vacataires dans les universités et le député pour lequel je travaille, qui s'appelle Pierre Henriet, a écrit un amendement, a porté ce sujet et je me souviens des députés communistes qui ont voté avec nous pour que la mensualisation du paiement des vacataires soit inscrite dans la loi. Donc, c'était la loi programmation pour la recherche. Et donc, à mon sens, on peut vraiment travailler en intergroupe et on peut travailler sur des sujets comme la fin de vie, sur des sujets comme l'avortement, sur des sujets comme le fait de pouvoir porter le nom de sa mère. C'est quand même un truc de se dire qu'il faut encore se battre pour pouvoir porter le nom de sa mère en 2022, c'est délirant. Et donc voilà, donc c'est des sujets qui ont vraiment avancé sous ce quinquennat et j'espère qu'il y aura de nouvelles avancées, notamment sur les retraites pour les femmes sous la prochaine mandature. Voilà.
Mais ouais, effectivement, moi je trouve que ça a pris du temps quand même, hein, que les députés ont mis du temps à s'émanciper un peu de l'exécutif, mais vers la fin, je trouvais ça intéressant à observer, en tout cas en tant qu'observatrice de la vie politique en France. Et je me disais, bah enfin. Je vous propose peut-être de terminer nos échanges sur une petite conclusion de Sophia, sauf si vous voulez ajouter quelque chose après, bien sûr. En fait, ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on papote, donc il y a tellement de choses à dire, j'avoue. On peut continuer si vous voulez, mais Sophia, je te laisse peut-être réagir à tout ça.
Eh bien, réagir et oui, compléter et peut-être conclure simplement sur le fait que ce vote Macron au second tour n'est pas un chèque en blanc. Moi, je ne signe pas de chèque en blanc. Et on s'attend en fait à des actes forts, des paroles fortes, non pas sur des annonces, mais simplement sur l'application d'un certain nombre, notamment de lois qui existent déjà. La première étant celle du DALO. Donc c'est très simple, hein, il y a déjà toutes les dispositions, il y a déjà eu des tas de discussions sur le sujet. Donc il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude, mais simplement d'appliquer à la lettre cette loi du droit au logement opposable. La seconde, c'est celle de la Convention d'Istanbul. C'est pareil, hein, on peut attendre un certain temps pour le milliard d'euros nécessaire, mais il s'agit pour éradiquer déjà un certain nombre de ces violences d'appliquer aussi ce texte formidable dans lequel, encore une fois, tout se trouve. Hein, je vous invite à aller consulter. Et en troisième lieu aussi, les accords de Paris, parce que pareil, hein, normalement, on a signé ces fameux accords de Paris. Il y a un certain nombre de recommandations qui vont dans le sens de celles du GIEC, même si, évidemment, l'urgence se fait de plus en plus pressante. Et puis, encore une fois, pour terminer, Voilà, c'est important de reparler d'intersectionnalité de quartiers populaires sans que ce ne soit un gros mot, mais évidemment de remettre vraiment de la République, parce que ce n'est pas ces territoires qui sont des territoires perdus de la République, mais par la République. Et quand on vit dans certains quartiers ou dans la deuxième ville de France, par exemple, là où je vis, il peut y avoir des endroits où le bus passe une fois toutes les heures, en fait, ce n'est juste pas possible, quoi. Et ça, que ce soit pour la question de l'emploi, de la formation, de l'engagement, etc., ce n'est juste pas possible, et ça devient presque un truc de bourgeois que d'avoir un travail ou d'avoir un engagement associatif. Donc voilà, j'invite vivement la majorité présidentielle actuelle, le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron, à mettre le braquet de manière urgente à gauche pour sauver la planète, la démocratie et les gens les plus pauvres et en proie à la précarité dans ce pays. Voilà.
Ouais, je peux qu'en faire autant. Effectivement, moi, j'aimerais que ce soit des engagements forts, des engagements sincères et des engagements concrets. Donc, we're watching you, Manu. Je vous propose maintenant de passer à vos actus, aux trucs, aux choses que vous vouliez partager avec nous, si vous n'avez plus rien à dire sur ce sujet, même si je pense qu'on a encore plein de choses à dire, mais il va falloir conclure cet épisode. J'en suis navrée, sinon on va y passer l'après-midi, voire la soirée aussi. Fania, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît?
De quoi je voulais parler, je voulais parler d'une série que j'ai regardée, qui est sur Apple TV, qui s'appelle Severance, la série. Et si je voulais en parler, je pense que c'est très d'actualité. C'est une série qui se passe dans un futur proche, où une entreprise propose de faire une opération sur le cerveau qui fait que la mémoire de son soi à l'extérieur du travail est séparée de la mémoire de la personne qu'on est au travail. C'est-à-dire qu'on est au travail, on ne se souvient pas de qui on est, si on a des enfants, etc. On se souvient que de ce qui se passe au travail, et lorsqu'on est dehors, on ne se souvient pas de ce qui se passe au travail. Et je pense que c'est bien dans le thème, parce que ça rejoint dans mon livre « Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afro-féministe ». J'utilise beaucoup la science-fiction et parce que c'est un des sujets de prédilection, pour parler de politique, pour parler des horizons politiques possibles, mais pour parler aussi des systèmes de domination que sont le capitalisme, l'hétéropatriarcat et la suprématie blanche. Et je trouvais ça assez intéressant pour montrer à quel point ce qui fait une société qui va vers le fascisme, cette idée de prendre un thème récurrent, hein, surtout chez le féminisme libéral, hein, de la séparation, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ça c'est un thème récurrent du féminisme libéral, qui oublie qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas faire l'équilibre parce qu'elles sont pauvres, et que c'est dedans, c'est que les néolibéraux ne font pas barrage contre l'extrême droite, et les néolibéraux font des ponts avec l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est les néolibéraux qui vont pouvoir pousser des discours en les prenant, en les infusant d'idées soi-disant féministes ou progressistes, enfin soi-disant féministes, c'est-à-dire le fémonationalisme, c'est-à-dire comment on utilise le droit des femmes pour des principes racistes, comme on voit quand beaucoup de gens à la majorité sont contre les femmes qui portent le hijab pour faire du sport, et comment c'est poussé à travers le travail, à travers le droit du travail et à travers le fait que on peut s'exploiter soi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette série? Comme on est séparé des deux, le toi qui est dehors, il ne sait pas ce qui se passe au travail. Donc, tu peux être abusé au travail, comme c'est le toi de dehors qui a le droit de signer ta lettre de démission et qu'il n'est jamais au courant, tu peux être exploité de manière éternelle et vivre une vie misérable. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant, que c'est une des séries les plus intéressantes sur les avancées du néolibéralisme, sur la casse du droit du travail et sur la transformation et la création d'un homme nouveau qui essaye de faire le néolibéralisme où notre vie est centrée sur notre capacité à produire produire du travail et le fait à produire de la richesse pour le capital. Donc, je vous conseille de regarder cette série et de vous méfier de quand des pensées soi-disant progressistes ou qui paraissent progressistes sont utilisées à des fins de captation de votre force de travail, des ressources ou l'enrichissement de la classe bourgeoise dans le pays. Donc, regardez cette série, c'est super. Et Patricia Arquette est extraordinaire. Elle est extraordinaire en général, mais dans ce film, elle est extraordinaire.
Écoute, dans cette série. Merci beaucoup. Hein. Donc, c'est The Sovereign, c'est ça?
Severance. Et c'est sur Apple TV.
Trop cool. Et bah, écoute, merci mille fois pour cette excellente reco. Sophia, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Déjà, j'avoue, c'est un super synopsis que tu nous as fait là, ma chère Fania. Je vais regarder de ce pas. Moi, je voulais vous parler du premier tour. Non, je rigole, mais en plus, c'est vrai. En fait, j'ai tenu un bureau de vote. Donc, j'ai tenu un bureau de vote dans l'école où j'ai été quand je suis arrivée en France, donc l'école primaire, dans la cité où je suis retournée habiter suite à ce qu'on appelle joliment un accident de vie, donc un licenciement, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai perdu mon boulot. Je reviens vivre à Marseille pour mener ce projet de candidature à la législative. Et puis, je tiens ce bureau pour revoir un peu ce qui se passe. Parce que quand on s'en va, effectivement, 5 ans, notamment à Paris, on perd un peu soi-même la notion de la réalité. Même en n'ayant pas eu des fonctions non plus ministérielles ou que sais-je. Et je tiens ce bureau de vote et je vois qu'il y a beaucoup plus de fréquentation que d'habitude. Je l'avais déjà tenu à l'époque à plein d'autres moments quand je vivais encore à Marseille. Et là, pour la première fois, je voyais vraiment une participation beaucoup plus forte, mais une participation nouvelle, très, très nouvelle. Si bien que je me suis rendu compte que le geste de voter n'était pas du tout naturel pour la grande majorité des gens, que le fait de savoir comment s'inscrire, si on est inscrit ou pas sur les listes électorales et comment le faire le cas échéant, c'était pas du tout naturel non plus. Et en fait, toute la journée, en plus donc de veiller au bon déroulement de ce scrutin, j'ai passé peut-être au moins 4 heures à expliquer aux gens, à certaines personnes, quelles étaient les étapes avant de passer à l'urne, les papiers qu'il fallait, de vérifier si des gens étaient bien inscrits ou pas, de leur remettre leur carte électorale ou pas, si on l'avait au bureau de vote. Et pareil, là, je fais un appel. Les inscriptions sur les listes électorales sont de nouveau ouvertes jusqu'au 6 mai prochain pour les élections législatives. Et il faut vraiment inviter un maximum de gens autour de vous à vérifier s'ils sont bien inscrits, à les aider à le faire s'ils ont une phobie administrative. Ce n'est pas très compliqué, soit en mairie, soit sur le site servicepublic.fr, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et c'est tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment pas compliqué, mais vraiment regardez autour de vous. Il y a peut-être des gens pour qui c'est pas un geste naturel, et c'est pas grave du tout. Et ça sert aussi à ça, d'être en démocratie, c'est de faire de l'éducation par tous et pour tous, comme en éducation populaire. Voilà.
Mais ouais, complètement d'accord. C'est vraiment de la pédagogie électorale, en fait, étant donné que l'État ne le fait pas trop, voire pas du tout. Donc, effectivement, il faut...
Bien vu le cabinet McKinsey, ce qui nous a coûté, et les professions de foi jamais...
Exactement, c'était quoi, 300 000 balles? Ouais, c'était 300 000 balles pour... Voilà. Ouais, dommage. Ok, merci beaucoup, Sophia. C'était une super intervention aussi. Merci. Et enfin, Anne-Sophie, toi, de quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui?
Déjà, je soutiens totalement l'appel de Sophia à aller s'inscrire sur les listes électorales et je te remercie de l'avoir passé. Écoute, moi, je voulais parler patrimoine parce qu'en fait, hier, en lisant Le Monde, je me suis rendu compte qu'il y avait un article intitulé « Pour la culture, Emmanuel Macron entend choyer les artistes vivants et Marine Le Pen les vieilles pierres ». Et j'ai failli m'étouffer avec mon café en me disant « Mais comment ça, le patrimoine, c'est pas l'apanage de l'extrême droite, loin de là ». Et donc voilà, donc j'avais envie de parler un petit peu du patrimoine des vieilles pierres, parce que je pense que dans ces vieilles pierres, il y a beaucoup d'histoires et qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur soi en étant au contact de ces lieux qui ont forgé vraiment notre identité aujourd'hui. Et c'est aussi des lieux d'évasion. Pour moi, c'est un peu la magie, c'est que je suis une grande amoureuse d'un château du XIIe siècle, c'est un donjon du XIIe siècle qui est dans le Périgord, qui s'appelle le château de Comarque. Et je dois dire que c'est un château en fait qui est au milieu d'une vallée totalement oubliée, que je vous invite à aller visiter. Et là-bas, vraiment, on a le sentiment, enfin, on contemple toute notre civilisation, puisqu'il y a une grotte en fait préhistorique tout en bas, des habitats du néolithique, et juste au-dessus un village castral qui a été en ruine et qui a été et donc ce lieu en fait a été sauvé à la force du poignet par son propriétaire qui s'appelle Hubert de Comarque. Et qui a donc sauvé vraiment cet endroit et il l'a ouvert au public pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc, voilà, je vous invite à aller voir ces lieux parce que c'est vraiment des lieux qui sont magiques, il n'y a pas d'autre mot. Et je voulais aussi parler d'une autre initiative que je trouve absolument extraordinaire et qui prouve que le patrimoine n'est pas un truc d'extrême droite. C'est une initiative qui a lieu depuis plusieurs années maintenant au château de Lignières, qui est un château donc en Mayenne, pas très loin de Laval, donc c'est accessible. Maintenant, on peut être très vite à Laval en TGV, et qui est détenu par quelqu'un qui s'appelle Julien Ostini. Et Julien Ostini, il a décidé que l'opéra, c'était un, pas un truc de riche, deux, pas un truc de gens qui vivaient dans Paris intramuros ou dans les grandes villes. Et donc, il a décidé de monter, avec toutes les bonnes volontés de la Terre, un opéra ex nihilo chaque année. Pour les gens qui vivent à la campagne, pour ceux qui vivent en Mayenne ou ailleurs et qui, pour la modique somme de quelques euros, en général, les premières places sont à 5 euros, peuvent venir contempler un spectacle, un opéra. Et en fait, il y a les plus grands cantateurs de l'Europe, des scènes européennes, donc, qui se produisent normalement à Garnier, à Bastille, à La Scala, qui viennent participer à cette initiative. Les gens du village font de la couture pendant des mois pour coudre tous les costumes, ils récupèrent à gauche à droite de quoi faire un décor et ça donne un truc absolument extraordinaire. Donc ça s'appelle donc c'est à Lignières, c'est le château de Lignières, et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils ont fait. C'est assez inouï et ça montre que dans les vieilles pierres on peut faire des trucs complètement dingues, on peut faire vivre la culture et surtout on peut faire vivre la culture pour tous et à portée de tous, et ça c'est extraordinaire. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup Anne-Sophie pour cette reco patrimoine. C'est cool, c'est super intéressant, et le projet dont tu parlais là, c'est je trouve ça assez assez remarquable. C'est vrai qu'en plus Laval, c'est moi je suis jamais allée perso, mais ce sera peut-être l'occasion. Je vais tenter du coup. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris du temps pour parler de cet entre-deux-tours de la présidentielle. Merci pour vos brillantes interventions, pour vos actus que vous souhaitiez partager avec nous. C'était super. À bientôt sur Popol et bon courage pour le week-end prochain. Je vous embrasse.